Eh bien, bienvenue pour cette soirée qui, d'abord, je voudrais une grande reconnaissance à Denis Guénoun, parce que c'est vrai que c'est la dernière de cette année, et c'est avec une immense reconnaissance, j'ai pas encore entendu ce volume-là, qui peut-être me décevra à l'extrême, donc je me dépêche de le dire. Immense reconnaissance pour cette année qui a été vraiment beaucoup... C'est-à-dire qui m'a énormément apporté, qui est très très riche. Et donc, je trouve ça, cette année, autour de la philosophie et de la théologie, grâce à toi, Denis, a été vraiment formidable. Et le tome d'aujourd'hui, avec Bonhoeffer, je l'attends avec impatience, parce que Bonhoeffer est un penseur, mais surtout un homme pour qui j'ai une admiration absolument sans égale. Et donc, je me réjouis beaucoup de ce que tu vas nous dire sur cet homme.
Merci Marc, merci beaucoup. Nous voici donc parvenus au terme de ce premier cycle philosophie et théologie. Pour cette séance, je voudrais m'interroger avec vous sur l'idée de religion. J'ai réalisé d'ailleurs que ça avait fonctionné en quelque sorte par couple. Les deux premières séances, c'était l'être et l'autre, puis nous avons reçu Jean-Baptiste Brenet. Les deux séances suivantes, c'était le temps et l'histoire, puis nous avons reçu Valère Novarina. Et ces deux dernières séances, c'était le mythe et donc l'idée de religion que je voudrais aborder à partir d'abord d'une interrogation, d'une introduction en vérité philosophique et historique, puis à l'écoute de la pensée du théologien Dietrich Bonhoeffer. Il était, voilà quelque temps, habituel de dire, en se fondant sur une étymologie discutée, que religion, la religion, est ce qui relie. On voulait dire ce qui relie les hommes entre eux, ou les humains avec le cosmos. Or, on peut penser aussi bien que le mot religion désigne quelque chose qui sépare. Un lien, bonjour, par exemple des humains entre eux, qui les réunit en effet, mais dans leur écart avec d'autres. Une religion ne se pose sous ce terme qu'en différant d'autres religions. Je ne parle pas ici du rapport intime à la transcendance ou de l'expérience des réalités dernières, mais seulement de la notion de religion. À mes yeux, la religion s'institue dans la différence des religions. Pourquoi ? Un recours à l'histoire est utile. Religion est un mot latin. Je ne lui vois pas d'équivalent strict en grec classique, par exemple. Bien sûr, certaines pratiques que nous désignons par ce terme sont nommées dans d'autres langues antérieures ou lointaines. Culte, rite, croyance, etc. Mais la synthèse originale que nous concevons comme une religion n'existe peut-être pas exactement avant sa construction dans le monde romain. Ce qui explique les débats infinis autour du fait de savoir comment désigner la religion athénienne. Religion civile, culte domestique, etc. Il me semble que le mot latin exprime une façon de concevoir, de synthétiser l'expérience lié au monde romain, républicain d'abord, impérial ensuite. Or, l'espace que nous appelons romain a produit la confrontation de croyances et rites hétérogènes. Pas seulement leur voisinage, comme c'était le cas entre les cités grecques par exemple, ou entre le monde grec et des zones limitrophes où étaient vénérés des dieux différents. Car ces dieux pouvaient cohabiter dans une même pensée, en tant que Dieu voisin, à tous les sens du mot. Ils ne fondaient pas, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, une différence de religion. Celle-ci s'affirme, à la différence, à la fin de la République romaine, puis sous l'Empire, dans le rapport entre les croyances du monde impérial, le polythéisme gréco-romain, d'une part, et le judaïsme et le christianisme de l'autre. C'est dans le choc, dans ce choc, que s'institue la différence religieuse avant de se diffuser dans les conflits ultérieurs. Pour le dire autrement, un individu humain se pense, à mes yeux, comme pratiquant d'une religion dans la mesure où il se perçoit par cette pratique et sous ce terme, par différence avec les tenants d'autres cultes et d'autres cultures, non seulement distincts, mais aussi rivaux. Ainsi se démultiplie la différence religieuse entre judaïsme, christianisme, paganisme, mais aussi bientôt entre ceci et l'islam, et plus tard dans l'opposition au sein du christianisme entre catholicisme romain et orthodoxie orientale, puis entre catholicisme et réforme, ce dernier exemple extrême menant aux guerres de religion. Le système de ces confrontations s'étendra par les circulations maritimes et militaires dans le contact avec les cultes et croyances extra-européennes. Comment expliquer que la notion de religion se soit ainsi sédimentée, fixée dans ce rapport à la différence des religions ? Différence rivalitaire, pour reprendre le terme de René Girard, conflit de religions rivales. Pourquoi les religions ainsi désignées n'ont-elles pas pu se côtoyer dans une coexistence non conflictuelle ? Les explications peuvent être nombreuses. Dans un travail antérieur, qui s'appelait « Hypothèse sur l'Europe », j'ai été conduit à développer l'hypothèse que voici. Si le concept de religion ne désigne les cultes qu'au sein de cette problématique rivalitaire, c'est parce que la religion n'est pas une notion autonome définissant un domaine indépendant, mais que sa définition est liée à une réalité politique. Sous l'Empire romain, la différence de religion se concrétise dans le conflit entre les cultes chrétiens et païens pour maintenir ou devenir la religion d'État. C'est la lutte autour de la religion impériale qui institue les religions dans leur rivalité. La référence étatique, politique, inscrit la religion dans la compétition religieuse. De même, l'islam se construira au sud de l'Empire dans la concurrence guerrière, entre l'Empire romain et le monde arabe. La différence entre catholicisme et orthodoxie se cristallisera comme rupture étatique entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Enfin, le déchirement des guerres de religion prendra toute sa violence par la fracture poussée entre les États, Angleterre, principautés allemandes, ou en leur sein, lutte pour la domination du royaume de France, dans des conflits politiques très brutaux. Ces trois séries d'oppositions politico-militaires donnent à l'idée de religion son visage, qu'on peut appeler théologico-politique. C'est par elle que s'organise l'expérience. Si je parle de ma religion, quelle qu'elle soit, elle s'inscrit dans le régime d'opposition entre judaïsme, islam, orthodoxie, catholicisme ou cultes et cultures issus de la réforme, puis d'autres, en particulier dans les dernières décennies. Lorsque je parle de ma religion, même avec beaucoup de sincérité et d'engagement personnel, tout se passe comme si j'en parlais de l'extérieur, d'un point de vue externe. On l'entend bien aujourd'hui lorsque des musulmans sont invités à s'expliquer sur leur religion. Ces réflexions, très brièvement résumées, ont pris pour moi une résonance nouvelle lorsque, voici quelques années, je me suis réengagé après une longue interruption dans la lecture des écrits de Dietrich Bonhoeffer. Il me faut maintenant dire quelques mots de cet homme. Né en 1906 et mort en 1945 à 39 ans, c'était un des fils d'une famille de la haute bourgeoisie allemande. Son père était un professeur de médecine de grande réputation. Le jeune Dietrich s'est engagé très tôt dans le pastorat et la théologie. Ayant produit des travaux marquants qui ont fait sa notoriété dans l'église luthérienne, il s'est impliqué activement dans le mouvement œcuménique international. par moments pasteur à New York et à Londres, il est revenu chaque fois en Allemagne par une implication très forte dans le sort de son pays en crise. Dès le premier jour, au sens strict, le premier jour de l'avènement de Hitler, Bonhoeffer a participé de façon active à la résistance contre la mainmise du pouvoir nazi sur l'Église, refus qui a donné naissance, avec d'autres bien sûr, à l'Église confessante, en rupture avec ceux des milieux luthériens qui se montraient accommodants à l'égard du nazisme. Adversaire repéré du régime, il a pensé émigrer peu avant la guerre, et un poste d'enseignement lui a été offert dans ce but à New York. Il a rejoint les États-Unis, mais ne pouvant supporter un éloignement de l'Allemagne dans l'épreuve, il a repris le dernier bateau vers son pays au début de l'été 39, immédiatement avant le déclenchement des hostilités. Au cœur du conflit, il a participé à divers projets clandestins en vue de renverser le régime, animé par des hauts fonctionnaires et officiers supérieurs ou généraux à qui le liaient des proximités familiales et amicales. Arrêté en avril 1943, sur des soupçons alors assez vagues, il a été emprisonné sans que fût encore connue sa participation à la préparation d'un coup d'État. Ces préparatifs ont mené à l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944. Quelques semaines après cet événement, les fils de la conspiration ont été mis à jour et l'implication de Bonhoeffer dévoilée, en même temps que celle de plusieurs de ses très proches. Il est alors resté incarcéré, sans plus aucun espoir de libération, jusqu'à ce que dans les dernières semaines du régime agonisant, il soit assassiné, sans doute après d'horribles tortures, avec d'autres participants au complot, peu avant la chute du dictateur, le 8 avril 1945, sur ordre personnel de Hitler aux abois. Voici l'homme. Après la fin de la guerre, son ami Eberhard Bethge a entrepris la publication de ses inédits. On a pu alors prendre connaissance d'une partie partiellement conservée de son éthique, qu'il voyait comme son chantier principal, mais c'est avec la publication de ses lettres et notes de prison à partir de 1951 que la notoriété de Bonhoeffer a connu un bond énorme, le hissant au rang des tout premiers théologiens de son siècle, aux côtés par exemple de Karl Barth et de Rudolf Bultmann, avec qui il avait été en relation et en dialogue direct. Les lettres de prison, dans diverses éditions successives, ont été publiées sous le titre de « Résistance et soumission », choisi par Bethge à partir de deux formulations qui figurent dans les lettres elles-mêmes. Ce sont certains de ces textes que je voudrais convoquer aujourd'hui parce qu'ils déclenchent une mise en question vertigineuse du concept de religion émanant d'un homme plongé toute sa vie dans un milieu profondément religieux, pasteur, et qui s'est impliqué volontairement et sans défaillir dans le sort de son Église. Et ceci, je le redis ici pour n'avoir pas à le répéter sans cesse, même si la chose ne peut que rester présente à notre esprit tout au long de la lecture, sans faiblir et littéralement jusqu'au martyr. Cet ouvrage, Résistance et soumission, dont voici la dernière édition française, se présente de façon inhabituelle pour un livre de théologie. Il s'agit d'un vaste ensemble de lettres échangées entre Bonhoeffer, détenu à la prison de Tegel, à Berlin, et son entourage le plus proche, entre avril 1943, date de son arrestation, et janvier 1945, moment auquel la correspondance du prisonnier s'interrompt. À cet échange, s'adjoignent quelques notes de travail et poèmes rédigés en prison, courriers d'un captif, comme en ont connu tant de familles, centaines de pages où dominent les informations pratiques, demandes de colis de nourriture ou de vêtements, avis et remerciements à leur réception, essais de réconfort de la part des proches ou du prisonnier à ses parents et amis, état physique et moral, témoignages d'attente interminable d'un procès qui ne vient pas et d'une libération indéfiniment espérée, espoir de visite, rare, trace de ces passages quand ils ont eu lieu. J'ai eu à dépouiller personnellement les lettres de mon père, qui était en prison dans les mêmes années, et j'ai retrouvé le même type d'information, d'obsession, au fil de la vie carcérale et familiale. On lit bien ici et là quelques notations réflexives ou théologiques, mais pendant toute la première moitié du livre, elles sont très rares. À la page 326 de l'édition française, et de façon totalement imprévue, surgit comme une floraison luxuriante une intense méditation théologique, laquelle, avec quelques autres pages parsemées dans la suite, peut-être une trentaine en tout au maximum, va participer à un renversement de la pensée théologique de l'après-guerre. Évidemment, dans ces lettres, il ne peut jamais être question de façon explicite de la situation mondiale, ni de la guerre, ni des pensées historiques des correspondants, et encore moins de leur participation à la conspiration, bien sûr. Les missives sont soumises au censeur, et même lorsque, après plusieurs mois, elles seront acheminées clandestinement, elles éviteront toutes les mentions directes. L'histoire mondiale et personnelle, individuelle et collective, y est donc présente d'un bout à l'autre, mais par métaphore, signe codé et en creux. Venons-en à la première de ces lettres théologiques devenues si célèbres et datées du 30 avril 1944. En voici un passage de quelques lignes. La question de savoir ce qu'est le christianisme et qui est vraiment le Christ pour nous aujourd'hui, me préoccupe constamment. Le temps est passé où l'on pouvait tout dire aux hommes par des mots, que ce soit des paroles théologiques ou pieuses, comme le temps de l'intériorité et de la conscience, c'est-à-dire le temps de la religion en général. Nous allons au-devant d'une époque totalement sans religion. Tels qu'ils sont, les êtres humains ne peuvent tout simplement plus être religieux. Ceux-là même qui se déclarent honnêtement religieux ne le mettent nullement en pratique, ils entendent donc probablement par religieux quelque chose de tout autre. Fin de citation. Le constat est radical et il faut se garder de n'y voir que l'observation courante concernant la désaffection à l'égard des pratiques religieuses. D'abord parce qu'en 1944, cette désaffection n'avait sans doute pas atteint le niveau que nous lui connaissons depuis. Mais surtout, parce que la réflexion de Bonhoeffer ne porte pas seulement sur l'observation d'un état des choses, mais sur une mutation historique et donc sur un avenir aussi. Il écrit bien qu'un temps est passé qui est celui de la religion en général. Je cite, « Nous allons au-devant d'une époque totalement sans religion, tels qu'ils sont, les êtres humains ne peuvent tout simplement plus être religieux. » La question est donc de savoir ce que Bonhoeffer entend ici par religion ou religieux, puisque, indique-t-il, les humains peuvent être ainsi éloignés de la religion tout en croyant sincèrement rester religieux. Or, la caractérisation qu'il donne du temps qui est passé est inattendue. C'est le temps de l'intériorité et de la conscience. Le temps où on pouvait tout dire aux hommes par des mots, que ce soit par des paroles théologiques ou pieuses. Faisons un rapprochement. Plus loin, Bonhoeffer se demande, que veut dire interpréter religieusement ? Il s'agit de l'interprétation religieuse des concepts bibliques. Que veut dire interpréter religieusement ? Pour moi, cela veut dire parler d'une part de manière métaphysique, de l'autre de manière individualiste. Les deux manières, métaphysique et individualiste, ne rencontrent ni le message biblique, ni l'être humain d'aujourd'hui. Fin de citation. Cette définition très profonde porte à la réflexion. Quel est le rapport entre métaphysique et individualisme qui fonderait ainsi la religion? Proposons l'hypothèse suivante. La métaphysique établit une séparation. Ça, c'est moi, c'est ma lecture. La métaphysique établit une séparation entre, pour le dire très vite, esprit et corps, matériel et immatériel, ciel et terre, physique et métaphysique. L'individualisme, de son côté, construit une délimitation marquée entre l'individu et ce qui l'entoure. La religion serait alors le lien entre ces deux sortes de frontières. C'est dans l'individu, séparé, solitaire, que s'ancre la différence entre esprit et corps, matière et pensée. C'est le régime de l'intériorité, pensé comme une propriété individuelle, et donc séparée du dehors, des hommes, du cosmos, qui pose un esprit immatériel, incorporel, propre à l'individu. Ceci n'est conforme, pense Bonhoeffer, ni à la Bible. Il écrit ceci: la Bible ignore notre distinction de l'homme extérieur et de l'homme intérieur, ni à l'être humain d'aujourd'hui. Si nous revenons à notre passage, dans lequel j'ai fait cette digression, nous pouvons dire alors que le temps qui est passé est donc celui de l'intériorité pieuse, de la conscience pieuse, de l'intériorité ou de la conscience qui peuvent s'assurer de leur piété comme d'un domaine intérieur, clos et assuré, et auquel on peut donc tout dire en rejoignant ce domaine protégé par des mots qui lui conviennent, théologiques. Le temps de la religion est celui où des humains, peuvent se vivre comme habitant un domaine religieux défini, assuré, dont les frontières coïncident avec leur vie intérieure. Ce temps est révolu. Poursuivons notre lecture. Voici ce qu'écrit Bonhoeffer quelques lignes plus loin. Que signifie alors cette situation pour le christianisme? Le fondement de notre christianisme tout entier, tel qu'il fut jusqu'ici, se dérobe. Et ce n'est plus qu'auprès de quelques derniers chevaliers et d'une poignée d'hommes intellectuellement malhonnêtes que nous pouvons toucher terre religieusement. Ceci devrait-il être les rares élus, pleins de zèle, piqués au vif ou irrités, allons-nous nous précipiter précisément sur ce groupe d'hommes douteux afin d'écouler chez eux notre marchandise? Allons-nous fondre sur quelques malheureux dans leurs moments de faiblesse et les violer religieusement, pour ainsi dire? Si nous ne voulons rien de tout cela, si finalement nous sommes forcés de considérer la forme occidentale du christianisme comme l'étape préliminaire d'une absence complète de religion, quelle situation en résulte pour nous, pour l'Église? Comment le Christ peut-il devenir aussi le Seigneur des sans-religions? Y a-t-il des chrétiens sans religion? Si la religion n'est qu'un vêtement du christianisme, et ce vêtement aussi a pris des aspects différents aux différentes époques, qu'est-ce alors qu'un christianisme sans religion? Fin de citation. La postérité récente a surtout retenu de ce passage, et même de l'ensemble de cette lettre, l'interrogation en effet très frappante: comment le Christ peut-il devenir aussi le Seigneur des sans-religions? Essayons de comprendre, d'interpréter les voies de cette pensée si difficile. Le dépassement général des formes religieuses, le fait que, je cite, les hommes deviennent radicalement non-religieux, ne peut, selon Bonhoeffer, qu'affecter le christianisme. Car celui-ci, écrit-il dans un passage intermédiaire, celui-ci, le christianisme, a toujours été une forme de la religion. Et il ajoute même, dans une parenthèse énigmatique à laquelle je vais revenir, peut-être la vraie forme. Ainsi, le christianisme est-il touché, concerné, par cette caducité des formes religieuses, en ce sens qu'il a été, je cite, une forme d'expression humaine conditionnée historiquement et contingente. Et à ce titre, si l'on comprend bien, aujourd'hui caduque. Que va-t-il se produire pour le christianisme si le fondement qui le soutient tout entier se dérobe et s'il se voit ainsi menacé ou frappé d'effondrement, son socle ayant disparu? Une première conséquence possible, évoquée sous forme interrogative, serait que l'attitude religieuse, la nôtre, entre guillemets, dans les termes de ce passage, se replie sur un groupe humain considérablement rétréci, composé de quelques derniers chevaliers et d'une poignée d'hommes intellectuellement malhonnêtes. Étrange alliage. Dernier chevalier parce que combattant isolé d'un ultime quart carré de valeureux soldats, mais réduit à une formation résiduelle, héroïque et isolée. Ou, à l'inverse, poignée d'hommes intellectuellement malhonnêtes, expression où l'on retrouve par d'autres voies le mensonge et le manque de probité intellectuelle que nous trouvions évoqués le mois dernier dans la pensée de Bultmann. Vous vous en souvenez peut-être pour certains d'entre vous. Portés par un tout petit nombre, une poignée d'humains qui mentent sur leur foi et sur leurs conditions religieuses, voulant paraître maintenir un comportement religieux auquel en vérité ils n'accordent plus de crédit et dont ils maintiennent l'apparence par une attitude mensongère. Si nous agissons ainsi, nous serons réduits à l'attitude de trafiquants qui veulent s'adresser à des hommes douteux, parce que menteurs, pour écouler notre marchandise, notre camelote religieuse déconsidérée. Ou encore, il nous restera la possibilité de fondre sur quelques malheureux dans leurs moments de faiblesse, c'est-à-dire sur des personnes désorientées dans des moments d'égarement, de souffrance, et de profiter de leur situation déplorable pour leur imposer une religiosité déconsidérée et ainsi, dans une formule très forte, les violer religieusement. On le voit, tout ceci revient à dire que notre attitude de chrétien serait de basse valeur si dans tous ces cas, dans tous les cas, nous refusions à prendre en considération et à assumer pleinement la caducité de la religion, et si nous persistions à l'esquiver, à mentir ou à nous mentir à son propos. Quelle serait alors l'alternative? Elle consisterait d'abord à admettre de, je cite, « considérer la forme occidentale du christianisme comme l'étape préliminaire d'une absence complète de religion ». Cette idée a connu dans d'autres formulations que certains ici connaissent très bien, de notoires développements après-guerre, sans qu'à ma connaissance la dette à l'égard de Bonhoeffer soit toujours attestée. Pour Bonhoeffer, il faut, selon ce passage, penser ensemble deux faits d'allure disparate. D'une part, que le christianisme est pleinement une forme de la religion, peut-être, écrit-il, la vraie forme, et que simultanément, celle-ci est à penser comme l'étape préliminaire d'une absence complète de religion. Ces deux thèses se nouent dans une paradoxale unité. C'est parce que le christianisme accomplit la religion dans sa plénitude et son entièreté, sa vérité, la vraie forme de religion, qu'il s'avance comme étape de la disparition du religieux. En même temps qu'elle s'énonce de façon pleine, la religion s'éclipse. Elle est, dans l'ambiguïté de ce terme, elle en est la forme achevée, l'achèvement, accomplissement et terminaison. Je note ensuite qu'après avoir pris acte de cette défection de la religion, Bonhoeffer se demande quelle situation en résulte pour nous, pour l'Église. C'est étrange. Il persiste à considérer quelque chose comme l'Église dans, voire après, ce retrait du religieux, et qu'il appelle nous. L'Église n'équivaut donc pas à la religion. L'assemblée, l'ecclésia, la communauté réunie par l'appel, ne se réduit pas à la pratique religieuse, ici mise en cause, et ne s'éteint pas, en tout cas pas nécessairement, avec elle. Bonhoeffer demande, si le christianisme s'éteint dans cette apothéose du religieux, que devient-il après cette extinction ? On le voit, ce qui disparaît, à ses yeux, ce n'est pas le christianisme comme tel, mais le christianisme comme religieux. Cela implique de ne pas les identifier l'un à l'autre. Telle est la question où le prisonnier, depuis sa prison, nous engage. Y a-t-il des chrétiens sans religion ? Peut-on distinguer conceptuellement, et surtout pour Bonhoeffer, pratiquement, ces deux qualifications ? Qu'est-ce alors, dit-il, qu'un christianisme sans religion ? Que serait ce christianisme nu, puisque, dit notre auteur prisonnier, la religion n'est qu'un vêtement du christianisme ? Et surtout, nous y voilà, comment le Christ peut-il devenir aussi le Seigneur des sans religion ? J'ai dit le mois dernier ma réserve envers l'emploi du terme « Seigneur ». J'ai reçu depuis d'ailleurs des courriers de personnalités éminentes qui m'ont dit combien ils partageaient cette réserve. Et ce n'était pas forcément attendu de leur part. Dans la théologie de Bonhoeffer, fortement christologique, ce mot « Seigneur » prend une acception précise. Pas que c'est la mienne, hein. Je l'emploierai de la même façon qu'il le fait, mais j'essaie d'en rendre compte. Son ouvrage le plus diffusé, traduit en français d'abord sous le titre « Le prix de la grâce » et maintenant disponible sous l'intitulé « Vivre en disciple », est maintenant disponible sous cet intitulé car son titre allemand reste à peu près intraduisible en français « Nachfolge ». Le mot germanique veut dire « le fait de suivre ». Certains ont proposé de le traduire par le néologisme français « suivance », la suivance. Tout l'ouvrage explicite l'injonction de suivre le Christ. Vivre en disciple, en chrétien, c'est suivre la vie, la parole, l'existence historique et transhistorique de Jésus-Christ. Le mot « Seigneur » est peut-être à comprendre dans cette lumière. Le Seigneur, le Christ, est celui qu'il s'agit de suivre sur sa route, celui ou cela qui mène et emmène. Il est cette route même, ce chemin, je suis le chemin. Non que je veuille éluder dans l'emploi par Bonhoeffer de ce mot Seigneur toutes les résonances que j'y critiquais lors de notre précédente séance et dont je réclamais la démythologisation. Mais pour ce qui nous occupe aujourd'hui, la question devient comment le Christ peut-il s'affirmer pleinement comme la voie, le chemin, dans un paysage devenu non religieux, dans un monde sans religion. L'extinction des religions n'induit pas, dans cette façon de voir, le silence imposé à la parole du Christ. Peut-être tout au contraire, la chute des religions et du christianisme comme religion est peut-être une condition pour entendre cette parole. C'est ce que Bonhoeffer, après d'autres, hein, ça fait pour certains ce qu'ils savent très bien, de fortes résonances avec des mots de Kierkegaard, c'est ce que Bonhoeffer fera sonner dans une lettre ultérieure par une formule frappée, frappante. Le Christ n'appelle pas à une religion nouvelle, mais à la vie. De quoi s'agit-il alors ? Et comment approcher ce christianisme non religieux, ce christianisme sans religion, qui vient après le retrait des religions ? Je voudrais en proposer trois caractères possibles, d'après des indications fulgurantes contenues dans la suite de ces lettres. En premier, Bonhoeffer exprime sans cesse la volonté de franchir la limite imposée par la religion. Un exemple. À propos de l'attitude paulinienne concernant la péritomée, la circoncision, qui se trouve par exemple dans la formule « Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est une création nouvelle », il se trouve qui est un extrait de Galates 6,15, que cite Bonhoeffer. Bonhoeffer écrit « L'affranchissement par rapport à la péritomée est aussi l'affranchissement par rapport à la religion ». La limite, la séparation, induite par l'acte de la circoncision, à ses yeux, entre circoncis et non circoncis, lui paraît devoir être pensée désormais en termes de limite entre le religieux et le non-religieux. Et c'est cette séparation qu'il met en cause. Je lis Bonhoeffer. Tandis que j'appréhende souvent de prononcer, il est en prison, hein, il parle de ses gardiens et de ses voisins, tandis que j'appréhende souvent de prononcer le nom de Dieu devant des gens religieux, parce qu'il me semble sonner faux, et que je me trouve moi-même un peu malhonnête, c'est pire quand les autres commencent à se servir d'une terminologie religieuse, je me tais et suis accablé et mal à l'aise, tandis que je peux parler tout tranquillement et naturellement de Dieu avec des hommes sans religion. Cette transgression de la limite, de la séparation instaurée par le fait religieux, me paraît avoir un lien avec ce qu'a dit Valère Novarina, que je n'avais pas vu arriver et que je salue très amicalement, avec ce qu'a dit Valère Novarina ici même, sur son désir d'en finir avec le sacré. C'est-à-dire exactement avec la séparation, l'interdiction de franchissement, à quoi il a voulu opposer le saint et la sainteté comme désir d'établir une jointure, un toucher divin ou christique. J'entends aussi une résonance avec ce que je proposais au début de ces quelques minutes sur la religion comme différence des religions. Et donc sur une des modalités présentes de cette différence aujourd'hui, comme différence entre le religieux et le non-religieux dans le cadre de nos débats sur la laïcité, par exemple. La force de l'attitude de Bonhoeffer est qu'elle émane non pas d'un homme hostile aux religions, par exemple, il s'est énormément impliqué, c'était presque son chantier principal, dans le dialogue interreligieux, dans l'action écuménique, qui était en pleine formation, non pas donc d'un homme hostile aux religions, mais d'un chrétien qui a vécu sa vie et sa mort dans une fidélité intense à son choix de suivre le Christ jusqu'au martyr, inclusivement. Deuxièmement, cette volonté d'outrepasser la limite que pose la religion pour se déporter du côté du non-religieux afin d'espérer, je cite, « être des chrétiens sans religion, séculiers », fin de citation, se déploie, cette volonté d'outrepasser la limite, dans le désir de transgresser la limite religieuse entre la vie authentique, spirituelle ou chrétienne, et le monde. Les formulations à ce propos sont nombreuses. Je cite, « Il ne s'agit pas de l'au-delà, mais bien de ce monde, comme il est créé, maintenu, régi par des lois, réconcilié et renouvelé. Dans l'Évangile, ce qui est au-dessus de ce monde veut exister pour ce monde. » Fin de citation. Cet intérêt pour le monde, envisagé en lui-même et pour lui-même, n'est pas le fait d'un retrait de la préoccupation spirituelle, d'un Christ battant en retraite devant la réalité mondaine. C'est exactement le contraire. Dans l'éthique, il avait développé à ce propos une pensée affirmée. Il écrivait dans l'éthique, donc il a écrit l'éthique juste avant de son incarcération, il a pris quelques mois, enfin il a écrit ce qui nous est resté de l'éthique, quelques mois avant. Pour diverses raisons politiques et conspiratives, il s'est mis en retrait quelques mois et il a écrit ce très gros dossier, cet ensemble de textes. Il y écrivait « Il n'y a pas de lieu de retraite du chrétien hors du monde, ni matériellement, ni spirituellement. L'Église est le lieu où l'on atteste et prend au sérieux le fait que Dieu s'est réconcilié avec le monde en Jésus-Christ, qu'il a aimé le monde assez pour lui donner son Fils. Sinon, elle devient une association religieuse qui représente sa propre cause et qui a cessé d'être l'Église de Dieu et du monde. Le monde mauvais et obscur ne doit pas être livré en proie à Satan, mais doit être revendiqué pour celui qui se l'est acquis par son incarnation, sa mort et sa résurrection. Dieu s'est réconcilié en Christ avec le monde dans sa totalité. Il n'y a pas une parcelle du monde, aussi perdue et impie soit-elle, qui ne soit adoptée par Dieu et réconciliée en lui, avec lui, en Jésus-Christ. Fin de citation. La critique d'une délimitation d'un domaine appartenant au Christ. La revendication d'une entièreté et d'une plénitude du monde assumée par Dieu dans la mise au monde du corps du Christ est pensée dans ces pages dès avant l'incarcération comme mise en cause du repli religieux de l'Église, de la rétraction de l'Église comme religion, association religieuse. Or, Bonhoeffer va y insister de façon appuyée. Depuis la modernité, le monde, ce monde que Dieu a aimé et adopté en Christ, est, je cite, « devenu majeur ». Alors, c'est un thème extrêmement important dans une grande partie des lettres. Ce qu'il appelle le mouvement en direction de l'autonomie humaine s'est affirmé par, je cite, « la découverte des lois selon lesquelles le monde vit et se suffit à lui-même dans les domaines de la science, de la vie sociale et politique, de l'art, de l'éthique et de la religion. Cette évolution a atteint un certain achèvement de nos jours. Il en résulte, je cite encore, que l'homme a appris à venir à bout de toutes les questions importantes sans faire appel à l'hypothèse de travail Dieu. Vous savez, vous connaissez ce fameux débat à partir d'une formule du physicien, du scientifique Laplace. Bonhoeffer se prononce à plusieurs reprises contre la référence à un dieu bouche-trou, c'est sa formule, qui viendrait se glisser dans les failles toutes provisoires de l'explication rationnelle, de l'autonomie du monde, pour tenter de préserver des espaces de religiosité. Cette pensée d'une transcendance située aux limites toujours provisoires de la connaissance rationnelle ou de l'autonomie humaine est condamnée d'avance à une perpétuelle reculade devant les progrès de cette autonomie. À l'opposé de cette attitude, Bonhoeffer déclare « Dieu n'est pas un bouche-trou, il doit être reconnu non pas à la limite de nos possibilités, mais au centre de notre vie. » Et de manière encore plus forte peut-être, je cite « J'aimerais parler de Dieu non aux limites, mais au centre, non dans les faiblesses, mais dans la force, et donc non à propos de la mort et de la faute, mais dans la vie et la bonté de l'être humain. Penser Dieu non aux limites, mais au centre, tel me paraît être le cœur, stricto sensu, le fondement de la critique par Bonhoeffer de la séparation religieuse. Venons-en alors, pour finir, à la question de savoir si cette revendication du monde en lui-même et pour lui-même équivaut à une liquidation de toute transcendance. Question posée de façon aiguë, en particulier dans la grande lettre théologique dont l'écriture précède de peu la catastrophe finale et le silence. Bonhoeffer y revient en détail sur la grande évolution qui mène, je cite, « le monde à son autonomie ». Il en caractérise diverses étapes et conclut en indiquant l'impossibilité de tout retour en arrière, sinon par le sacrifice de l'honnêteté intellectuelle. On reconnaît la formule de Bultmann, qui vient peut-être d'ailleurs de sa lecture de la conférence dont nous parlions le mois dernier, qu'il a lue de très près peu avant son incarcération. Peu après ces considérations, on lit les stupéfiantes lignes que voici. Or, nous ne pouvons être honnêtes sans reconnaître qu'il nous faut vivre dans le monde et si Deus non dareto, comme si Dieu n'était pas donné. Et voilà justement ce que nous reconnaissons devant Dieu. L'honnêteté intellectuelle nous impose, alors ça c'est moi qui reprends, d'admettre l'hypothèse d'un monde sans Dieu, ou de considérer le monde sans l'hypothèse Dieu, mais cette reconnaissance, nous devons l'opérer devant Dieu. Comment comprendre cela? Je cite, « En devenant majeur, nous sommes amenés à reconnaître de façon plus vraie notre situation devant Dieu. Dieu nous fait savoir qu'il nous fait vivre comme des êtres qui parviennent à vivre sans Dieu. Dieu nous fait savoir qu'il nous fait vivre comme des êtres qui parviennent à vivre sans Dieu. » Fin de citation. La situation créée par le monde devenu majeur n'est pas imposée à Dieu du dehors, elle procède d'un mouvement dont le divin est lui-même l'agent responsable. Ceci, qui pourrait sembler un paradoxe artificiel, une récupération, tout ce qu'on voudra, s'éclaire beaucoup, me semble-t-il, à la lumière du passage de l'éthique que je citais plus haut. C'est la mise au monde du Christ comme corps, comme être humain dans le monde, qui est une adoption du monde par la transcendance, et qui conduit donc à assumer pleinement l'amour du monde pour lui-même et en lui-même. C'est le Christ qui a engagé le mouvement d'autonomie du monde, et donc la chute du religieux. En ce sens, le christianisme est bien la religion qui conduit au dépassement de l'attitude religieuse. Depuis l'incarnation christique, la séparation entre le divin et le monde n'a plus cours. Le monde est ce dont il s'agit dans l'attitude chrétienne. Et Bonhoeffer poursuit, le Dieu qui nous fait vivre dans le monde, sans l'hypothèse de travail Dieu, est celui devant qui nous nous tenons constamment. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Chaque mot pèse. C'est devant la transcendance, puisque vous savez que le mot Dieu n'est pas tout à fait dans mon lexique, hein, je l'emploie là par respect à l'égard de cet homme incroyable. C'est devant la transcendance que cette vie sans Dieu est convoquée. Devant, en présence du divin, sous son regard et en position de responsabilité devant lui ou elle. La vie qualifiée comme sans Dieu n'est pas une vie qui esquive le transcendant ou lui échappe, c'est tout au contraire une vie qui se pose et s'affirme sous sa lumière et par responsabilité sous ce qu'on peut appeler son jugement. De plus, cette comparution sous le regard du divin ou de la transcendance, cette vie sans Dieu se fait avec Dieu. Dieu nous accompagne dans cette comparution, il l'appelle et la demande. C'est Dieu qui nous appelle à délaisser une vie qui s'abriterait derrière le divin pour échapper au monde. C'est le divin lui-même qui nous convoque à une vie que Bonhoeffer ne cesse d'appeler non religieuse. Bonhoeffer ajoute quelques lignes plus bas. Lorsqu'on veut parler de Dieu non religieusement, il faut le faire de manière à ne pas camoufler, d'une manière ou d'une autre, la détermination sans Dieu du monde. Il faut au contraire la dévoiler. Et c'est ainsi justement qu'une lumière surprenante tombe sur le monde. Le monde devenu majeur et sans Dieu est peut-être justement pour cette raison plus près de Dieu que ne l'était le monde mineur. Il fait beaucoup penser à une formule de Simone Weil dont nous avons souvent parlé avec notre très cher Michel Deguy, que je salue. Pour tenter de le comprendre de façon plus concrète, il faut faire encore un dernier pas. Dans un document qui figure dans le recueil de lettres, qui est publié sous le titre « Ébauche d'une étude », où Bonhoeffer a voulu synthétiser, comme une espèce de plan de travail, la réflexion brusquement surgie dans les derniers mois de son incarcération, il pose la question « Qui est Dieu ?» Et il y répond en ces termes, auxquels je vous permets de vous demander d'être attentif, parce qu'ils sont plus singuliers qu'ils n'en ont l'air. L'être là pour les autres, l'être là pour les autres, de Jésus, est l'expérience de la transcendance. L'expérience de la transcendance, c'est l'être là pour les autres de Jésus. Avec un point d'exclamation. Le point d'exclamation est de sa main. Cette réponse est sensiblement distincte d'une autre à laquelle le discours religieux nous a plutôt habitués. L'expérience de la transcendance n'est pas la relation à Jésus, posée en lui-même, mais comme une essence intrinsèque qui nous ouvrirait au divin. L'expérience de la transcendance est précisément l'être là pour les autres de Jésus. C'est en tant qu'être là, tous les mots pèsent, hein, c'est un grand lecteur de philosophie qui écrit cela, et en particulier de Bultmann, et à travers Bultmann et directement de Heidegger aussi, qu'il fréquente beaucoup, c'est en tant qu'être là pour les autres que Jésus atteste et exprime le transcendant. Le transcendant, c'est l'être. Mais en tant qu'il est là, dans ce monde, non ailleurs, pour les autres et non pour soi. La transcendance s'éprouve dans le rapport à l'altérité des humains, dans ce monde et non ailleurs. Afin que cette affirmation ne puisse passer pour un glissement subreptice, Bonhoeffer ajoute « Notre relation à Dieu n'est pas une relation religieuse à l'être. » Wesen. L'être le plus haut, le plus puissant, le meilleur que nous puissions imaginer. Cela n'est pas une authentique transcendance. Mais notre relation à Dieu est une vie nouvelle dans l'être là pour les autres. On entend, ne trouvez-vous pas, comme un écho par anticipation de ce que nous lisions dans Lévinas au tout début de notre année, boucle totalement imprévue, je vous l'assure. Je ne sais pas si Lévinas avait lu Bonhoeffer, j'ai tendance à le penser. En tout cas, la critique tranchante que Bonhoeffer nous adresse depuis sa prison, avant son chemin de croix, sur l'idée de religion et l'attitude religieuse, nous enjoint d'interroger ce que nous faisons là, dans le monde, pour les autres, et devant ce qu'il appelle, lui, indéfectiblement, Dieu. Voilà, c'est fini.
Grand, grand merci pour ce parcours vraiment d'une profondeur incroyable qui nous mène très loin, voilà, qui nous remet beaucoup de choses en place. On a une bonne demi-heure en fait pour discuter, pour vous laisser la parole, pour entendre ce que vous avez à dire.
J'ai une question de Théo Besson, parce que ça ne rejoint pas la pensée théologique de Théo Besson. Il n'y a pas un lien.
Je ne peux pas répondre comme ça. J'ai lu beaucoup Théo Besson, même assez récemment, mais je ne sais pas si quelqu'un. Je ne peux pas répondre comme ça. Je ne sais pas. Oui, je vous en prie.
Oui, Théo Besson considère qu'il y a, à travers toute la création, une montée vers la complexité qui n'arrête jamais et se fonde là-dessus sur l'évolution, le darwinisme au départ. Il ne faut pas oublier que c'est un scientifique. Bon, et donc, il estime que lorsque les choses, que ce soit humaines, animales, végétales, minérales, arrivent à un degré de complexité maximum, elles ne peuvent plus se complexifier, et donc il doit y avoir une mutation. Et pour l'homme, cette mutation, c'est la mort et le passage à un état supérieur qui ne peut pas exister sans ce changement d'état.
Mais qu'est-ce que ça veut dire
ça? Si, on retrouve dans la limite, dans ce que
Bonhoeffer... Mireille demande, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça?
Mais si, ça exprime ce problème de la limite.
Oui, mais ça...
C'est un peu sur un plan peut-être différent, mais il y a certainement une
convergence.
Je vais une distance. Merci beaucoup pour cet éclairage sur Bonhoeffer. Je fais partie de cette génération qui, quand les lettres de Bonhoeffer ont été traduites en français, nous sommes précipités dessus et ça a donné naissance à un certain nombre de mouvements dans nos églises protestantes en particulier. Plus je vieillis, plus en relisant Bonhoeffer, je me demande, avec en plus le regard sur notre monde d'aujourd'hui qui n'était pas celui de Bonhoeffer, je me demande si ce monde est majeur. Et donc, d'autant plus, et je me demande aussi s'il n'est pas religieux au sens, bien sûr, les religions traditionnelles se sont, on va dire, il y a eu ce qu'on a appelé la sécularisation, mais j'ai une espèce d'a priori, c'est que l'homme est fondamentalement religieux. L'homme est fondamentalement religieux parce qu'il vit au fond une espèce de peur et il essaye de juguler ses peurs par des tas de de démarches qui vont effectivement déboucher sur ce lien entre le politique et le religieux, où on construit des rites pour juguler la peur et le malheur. Et aujourd'hui, ces rites se sont déplacés. Se sont déplacés des religions traditionnelles vers nos rites sociaux collectifs ou nos idéologies, que ce soit le projet, le progrès, que ce soit la mondialisation. On a substitué à nos religions traditionnelles de nouvelles formes de religion, ce qui me fait penser que l'homme d'aujourd'hui, en fait, n'est pas plus majeur, il est plutôt mineur par rapport à ce qu'il a été dans le passé. Donc, en relisant Bonhoeffer, je me dis, mais au fond, qu'aurait-il dit aujourd'hui devant ce monde qui... Et alors, on retrouve un peu Karl Barth, quand il ne parle pas, disons, de religion, mais qu'il parle d'idolâtrie. Au fond, l'homme reconstruit sans cesse des idoles. Ces idoles, ça a été l'habit religieux de notre christianisme. Aujourd'hui, ce sont d'autres habits religieux, sachant que le christianisme, lui, en tant que religion, est en train de dépérir. Alors voilà, c'est des réflexions un peu comme ça, brouillonnes, mais je pose surtout la question de la majorité de ce monde aujourd'hui. Est-il vraiment majeur ?
Je pense que peut-être... Ce que vous me dites, vous avez lancé un livre que j'ai lu récemment, de François Bougard, la théologie de la Suisse, sur les origines du laïc du christianisme. Et au fond, Bougard dit ceci, c'est que Jésus à parler aux hommes d'une manière extrêmement simple en utilisant des choses qui sont propres à tous les hommes, qui ne sont pas donc, habillés d'un habit religieux, d'un dogme, de manière de dire et de faire, d'un clergé, mais des gens de tous les jours, matériellement par exemple, parce que ce qu'il a fait, il l'a fait dans ce que connaissent tous les hommes, des repas, des marches, des pêches de poissons, des actions de tous les jours, et spirituellement, en utilisant des images, des métaphores qui empruntent à la vie de tous les jours, les graines, les arbres, les sources, voilà, des choses comme ça. Et au fond, Foucault a dit, il faut retourner à ses origines du christianisme, ses origines laïques du christianisme, parce qu'elles nous donnent toute l'ampleur, la force du christianisme qui s'installe dans la vie, puisque c'est en empruntant toutes ces images qu'on retrouve cette vie, qu'il y a une adéquation entre le message de Jésus et la vie, et qu'on retrouve d'ailleurs bien dans la vie. Donc il me semble qu'il y a là une sorte de convergence avec dans ce livre avec ce que vous dites. C'est un livre qui est paru il y a un an.
Je vais vous dire un truc, hein. je réfléchis, du coup. Oui.
J'ai une question par rapport à ce que tu as dit ce soir, qui est magnifique, bouleversant, et maintenant d'un homme en prison. Et je voudrais savoir si. Je voudrais savoir s'il y a une postérité de cette lecture. On a eu du mal à discerner ce qui émanait directement de Bonhoeffer et de toi. Et donc, il y a eu de magnifique confusion, en quelque sorte, de confusion. Et donc, cette parole, est-ce qu'elle a été prise dans son caractère choquant, émanant de quelqu'un dans sa situation, énonçant cela, et puis d'autre part, est-ce que cette situation dans laquelle il était, celle du nazisme, dans son crépuscule, est-ce que ça a à voir aussi avec cette espèce de conversion, dans la conversion qui est ce cri de détresse et d'espoir, d'espérance. Ah, c'est une question.
Oui. Oui.
Dans le monde actuellement, bon, c'est pas exactement l'islam.
Oui, bien sûr.
Est-ce que Mohamed peut être vraiment le chef et le prophète envoyé à ses sangliers? Et heureusement, je lis beaucoup, je connais tous les principes moraux que Dieu nous a envoyés, il a laissé, il a prescrit, il a insisté sur beaucoup de principes. Alors ça, pour moi, comme quelqu'un qui a lu ces principes, ces leçons, surtout les leçons morales, je suis rassurée que non, il ne l'est pas, bien sûr. Et non, ils ne font pas ça au nom d'une religion quelconque. Mais bon, je peux comprendre les autres qui ne l'ont pas, lu ou qui ne les connaissent pas assez pour cette haine ou cette peur ou cette liaison entre l'islam et tout ce qui se passe sur notre terre et sur la planète, malheureusement. Et je peux les comprendre, mais en même temps, je sais que on a besoin de plus de plus d'informations pour tout le monde, de plus d'élargir vraiment d'éclaircir l'image et en même temps, je suis pas du tout d'accord sur le fait que chaque fois qu'on invite quelqu'un, il commence à se justifier ou à dire que non, c'est pas ça. Parce que bon, je vois que non, on est tous des êtres humains, par exemple, tout ce qui se passe, les actes terroristes là qui se passent, bon, je vois que bon, pourquoi on demande toujours à une communauté de s'excuser ou d'affirmer que non, on n'est pas ceci, non, ce sont pas des principes. Bon, je trouve ça injuste. Parce que, bon, alors, ceux qui promettent ça, ce sont des hommes, et on les pousse. Alors, on doit tous réagir également. Il n'y a pas une communauté à viser ou à regarder toujours en tant que fautif ou en tant que une communauté accusée du fait que d'autres commettent des bêtises, si je peux dire, ou des crimes.
Ça va être difficile de répondre à tout ça. Je ne vais pas répondre, hein. Je ne sais pas, il n'y a pas lieu de répondre hein, dans ce que vous dites les uns et les autres. Je vais dire deux choses qui me viennent à l'esprit. Une question sur le trajet de l'œuvre de Bonhoeffer dans notre temps et dans notre histoire commune. Quand on m'a parlé de Bonhoeffer les premières fois, c'était des amis chrétiens qui m'en parlaient. Moi, j'étais engagé en plein marxisme. Et on avait un dialogue très fort. Ils me disaient, mais tu n'as pas lu Bonhoeffer? Je dis, non, je n'ai pas lu Bonhoeffer. Il faut lire Bonhoeffer. Et en effet, j'ai commencé à lire ça à l'époque. Bon, je dirais du dehors, hein. Apparemment. Ça a été une rencontre extrêmement forte. Et puis, à la différence sans doute de toi, Jean-Pierre, je peux me permettre de t'appeler Jean-Pierre, c'est ça, c'est ton prénom? À la différence de toi, j'ai cessé de lire cela pendant longtemps. Bultmann, c'était plus continu. En un certain sens, j'ai longtemps continué à lire Bultmann. Bonhoeffer, non. Et j'y suis revenu il y a quelques années. Donc, peut-être que ce long silence a été profitable au dialogue que j'ai eu avec cette œuvre, mais j'ai été stupéfait par son actualité et je dirais presque par le fait qu'elle est encore, à mes yeux, devant nous. En partie devant nous. Alors, comment le dire simplement sans charrier toutes les questions à la fois? Je dirais une seule chose. Si on considère la pratique des religions, sur ce point sur lequel on s'est arrêté ce soir, si on considère la pratique des religions, elle a été massivement en recul. Et puis on a dit que soit qu'elle revenait, soit qu'elle se maintenait sous d'autres formes. Et en particulier, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens ou de parties du monde, je ne sais pas, où il y a une référence qui se veut positive ou d'adhésion aux religions qui n'était, enfin, peut-être plus que ce n'était le cas il y a quelques décennies. Eh bien, à mes yeux, ça ne change pas la question du retrait du religieux. C'est-à-dire que je trouve que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les formules que j'ai citées au tout début. Je trouve que ce retrait est à l'œuvre même quand on se réclame d'un rapport actif à la religion. C'est pas exactement ce que tu as dit, hein, j'ai bien entendu, mais même lorsqu'on se dit religieux, je trouve que ce retrait de la religion, des religions, du religieux est encore à l'œuvre et toujours à l'œuvre. Et c'est ce dont j'ai trouvé un élément de théorisation le mois dernier, grâce à vous, grâce à la conférence sur Bultmann, autour de la question de la probité et de l'honnêteté. C'est-à-dire ce thème qui a été tellement travaillé par Bultmann, et en particulier dans la conférence de 41 dont nous avons parlé le mois dernier, c'est qu'il y a, à un moment donné, quand on continue à adopter un rapport qui serait un rapport plein comme ça, hein, à une certaine attitude religieuse, une question peut-être de probité, pas en termes éthiques, les gens sont très honnêtes, la question n'est pas là. Mais ce que Bultmann qualifie à je crois que c'est Redigkeit, ça veut dire que c'est quelque chose comme ça, Redigkeit, probité, honnêteté, ça se conçoit.
Droiture.
Rechtlichkeit, non, je ne sais pas, c'est pas Rechtlichkeit, c'est quelque chose. Oui, je ne sais pas, enfin, je l'ai pas sous, je peux le retrouver. C'est une question de d'honnêteté, de probité. Non, c'est pas Rechtlichkeit. Et que donc il y a une espèce, ce qui m'importe, c'est la question d'une espèce de divorce intérieur dans l'attitude religieuse, hein, une espèce de scission intérieure, de déchirement intérieur. Voilà. Et que, par rapport à laquelle Bonhoeffer veut, me semble-t-il, aller extrêmement loin, et en effet, tu as raison, Gérard, cela m'emporte, la préparation de cette conférence a été pour moi une secousse, hein, tu vois, une espèce de voyage. Dans la version écrite, il y a soigneusement les parties entre guillemets et les parties qui viennent de moi. Hein,
non, quand tu parles,
non, c'est un peu, j'ai essayé de le dire par moment, mais après, c'est, voilà. C'est Mais en effet, il y a quelque chose là qui m'emporte, parce que c'est ce que je veux dire en disant que ça me paraît être en partie devant nous. Alors que il y a... Bon, voilà. Pour le dire comme ça, d'une part, le retrait, pour le dire dans ce terme, le retrait du religieux, donc... Bon, mais simplement la différence avec les attitudes, par exemple, à certains égards heideggeriennes ou post-heideggeriennes, c'est que lui, il en prend acte de ce retrait de façon extrêmement catégorique, et il essaie de le traverser avec quelque chose qui, pour lui, est lié à ce qu'il appelle au Christ, à la parole, et parfois à ce qu'il appelle christianisme, et christianisme non religieux, etc. Bon, voilà. Il essaie de le traverser. Je suis très sensible à ce mouvement de traverser. Pourquoi ? Parce que, par tempérament, j'ai un souci très fort avec le retrait qui ne fait que contempler l'espace déserté. Tu vois, il y a quelque chose là qui ne me va pas, qui ne me convient pas profondément. Pas seulement parce que je voudrais qu'il y ait de l'avenir et des perspectives, c'est pas seulement ça. C'est quelque chose qui ne me convient pas. Je ne sais pas dire pourquoi. Voilà. Et il me semble que Bonhoeffer, à sa manière, avec ses catégories, avec son expérience, avec son histoire, essaie de traverser le retrait. Voilà, d'aller quelque chose comme au-delà du retrait. Qu'est-ce qu'on trouve au-delà du retrait ? On trouve l'être là pour les autres. C'est saisissant, enfin, de dire, c'est quand même quelque chose de très saisissant. C'est pas simplement une espèce de bienveillance en disant, ben oui, on est là pour les autres, c'est gentil, on va être gentil. C'est quand même beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est la négation de tout essentialisme du Christ, quel qu'il soit. Ou du religieux, ou de l'être, ou même du divin.
Sans affect.
Pardon ?
Sans affect.
En quel sens ?
Là pour les autres, sans affect personnel, sans projection, être là pleinement, sans avoir disponible en fait. sans projection personnelle de ce que l'on attend d'autrui, ce qui est extrêmement difficile en fait.
Ça me fait penser à la formule de Deleuze qu'on entend Artaud. Écrire pour les analphabètes, parler pour les aphasiques, devant, au sens de devant. Merci beaucoup. De devant, c'est-à-dire d'être là devant. Voilà. C'est ce devant qui est. Je pense quand il dit devant Dieu, il y a quelque chose comme ça qui est une espèce de devant, sans jamais dire devant quoi. Le devant, la position devant. Quoi.
Coram.
Hein? Coram. Un peu au sens où Tillich parle de la foi absolue qui est une foi en rien. Hein, une foi en. Voilà. Mais qui est la foi absolue. Voilà. C'est une position devant, une espèce de responsabilité devant, mais devant aucun être identifié comme tel, devant aucune plénitude d'être ou éminence ou suréminence d'être ou de l'être, devant. Voilà. Comme ça. Voilà. Là. Et c'est cette espèce de traversée. Et évidemment, tu as raison. Où il écrit, à quel moment il écrit. À quel moment de son incarcération il écrit, parce qu'incarcération il écrit, c'est-à-dire c'est, ça s'élève, son contemporain du moment où ça se ferme, hein, où ça se bouche, où ça ne va plus, où il sait qu'il ne sortira pas, etc. Donc il y a là quelque chose qui est pour moi d'une espèce de, à la fois une dramatisation évidente et en même temps une intensité de pensée que j'ai rarement trouvée à ce point. Voilà.
Oui, mais moi j'ai l'impression quand même, je ne sais pas si on revient à une minorité par rapport. Il y a une évolution bien sûr par rapport à l'époque de Bonhoeffer. Moi j'ai au contraire l'impression qu'il y a eu une vraie évolution en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas si la religion a jamais rassuré quiconque, peut-être dans le passé, mais j'en suis pas sûr du tout, parce que moi je crois que ça a toujours été quelque chose de plutôt effrayant que de rassurant. Donc je ne suis pas sûr de ces explications sur la religion. Aujourd'hui, les gens, je pense, sont rassurés, pas tant par la religion que rassurés tout court. Et j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, la place de la religion, elle va dans le sens, je ne sais pas si c'était une conséquence de ce qu'a dit Bonhoeffer, parce que c'est vrai que ça a eu un retentissement immense dans nos églises, quand même, pas seulement l'église protestante, que le côté prophétique de Bonhoeffer qu'a senti finalement cette évolution, aujourd'hui, on est beaucoup plus adulte qu'on ne l'était, je pense, à la génération de mes grands-parents, où être religieux, c'était quand même très identitaire. On confondait la religion et Dieu, on confondait l'idée qu'on se fait de Dieu et Dieu. Aujourd'hui, les gens qui sont, je ne sais pas si on peut dire religieux, mais en tout cas pratiquants, ils prennent, et pas simplement chez les protestants libéraux, je veux dire quand même dans beaucoup de, bon, à part quelques fous furieux, j'allais dire, mais on distingue l'idée qu'on se fait de Dieu et Dieu, on prend la religion, la pratique religieuse, qu'elle soit individuelle ou collective, comme un exercice comme on fait, comme on va soulever de la fonte dans un club de gym, mais c'est en vue d'eux. Et ça, je sens quand même ce que dit effectivement Bonhoeffer, c'est, voilà, l'idée quand même de Dieu est quand même beaucoup moins puérile, beaucoup moins matérialiste, et on entre dans, oui, une sorte de conception de Dieu, sans Dieu même, c'est-à-dire, voilà, on se dit, on réfléchit sur l'être de Dieu, mais c'est pour discuter entre nous, c'est pour avancer, c'est pour peut-être être plus présent au monde, donc plus pour les autres, mais je pense quand même qu'il y a une vraie évolution positive. Et est-ce que le monde est si négatif que ça ? S'il y a des choses qui sont négatives, certes, il y en a. Je le verrai plus comme une crise d'adolescence que comme un retour en arrière, moi, personnellement. Alors ensuite, pour ce que disait madame, c'est que c'est pas juste que les musulmans soient interpellés parce qu'il y a des fous qui posent des bombes ou qui tuent les gens au nom d'Allah. Est-ce que c'est pas juste ? Je sais pas, parce qu'ils le font quand même au nom d'Allah. En tout cas, moi, en tant que intéressé par la question de Dieu, en tant que priant Dieu et ayant une expérience, j'allais dire, face à cette transcendance, quand on m'interpelle, on me dit « Mais Dieu, voilà ce qu'il produit dans le monde », je ne trouve pas que ce soit injuste qu'on me pose cette question. Ce n'est pas injuste. C'est une question qui est tout à fait légitime de la part du monde, et je pense qu'il faut entendre ça, et il faut prendre en compte ce véritable questionnement que nous pose effectivement ce qui est commis au nom de Dieu, ça pose vraiment une question sur Dieu. Et c'est pas pour... je crois pas qu'on puisse disqualifier cette question en disant « Oui, mais c'est pas moi qui ai posé une bombe, c'est pas ma faute. » Non, il faut entendre cette question, c'est une question qui est véritablement une question théologique existentielle. Nous pouvons l'entendre et en tant que croyants, nous avons à y répondre, à y faire face tranquillement. C'est pas une culpabilité, c'est un dialogue.
Est-ce que c'est pas notre silence qui est interrogé souvent par rapport à des faits C'est le silence qui est interrogé.
Attendez, il y a plusieurs...
On essaye que chaque personne prenne la parole une fois, en fait, dans le principe.
Je voudrais répondre directement, là, parce que, par exemple, dans Irlande, il y a eu un terrorisme catholique. C'était le cas. On n'a jamais questionné les catholiques français sur leur foi et sur Dieu.
Mais si, bien sûr, Jean-Pierre.
Très peu.
Combien on nous a dit, mais les catholiques et les protestants en Irlande, alors qu'est-ce que vous répondez? Moi, ça nous est arrivé mille fois, Jean-Pierre. Et c'était légitime. C'était véritablement une question légitime.
Si je peux dire quelque chose là-dessus, oui. Non pas sur le... Amal Amir, qui est une amie, et dont je ne sais jamais si le prénom est Amal ou Amir, ça fait 10 ans que ça dure.
C'est
Amal, c'est ça. Amal, dans ce que tu as dit et que j'ai très bien entendu, je voulais simplement dire comment je... Moi, personnellement, je me pose la question, ce n'est pas un précepte général, c'est simplement quelque chose pour moi. Il y a une phrase de Jacques Derrida qui m'a toujours beaucoup impressionné, qui est la critique, enfin je le dis de façon très schématique, la critique est toujours autocritique, doit être autocritique. C'est-à-dire, moi je comprends qu'on mette en cause un point de vue à partir du moment où on met en cause sa propre position en même temps, dans le même temps, tu vois. Donc ce que je n'aimerais pas, c'est qu'on interroge l'islam en disant c'est la faute de l'islam, par exemple, de faire ça, si dans le même temps, moi qui suis plutôt juif d'origine, je n'interroge pas les crimes produits par des juifs, tu vois, qui, moi qui suis fidèle à une certaine tradition du marxisme, je n'interroge pas les monstruosités qui ont été produites au nom du marxisme et les abominations historiques qui se sont produites au nom du marxisme. Et je dirais même, puisque je suis dans une maison chrétienne et que j'y suis de plus en plus, je dirais, et très bien, je me sens entré aujourd'hui pas autorisé, en un certain sens, à adresser cette question, si en même temps, je ne sollicite pas la question de ce qu'a pu faire le christianisme. Tu vois ? Alors, en effet, ça se retourne dans tous les sens, parce qu'à partir... Moi, je ne sais pas comment on peut vivre ça du point de vue de quelqu'un qui se reconnaît dans l'islam, enfin, tu vois, qui a une écoute et une... Mais je dirais simplement que j'aurais envie de solliciter un point de vue qui ne soit jamais accusateur si le point de vue accusateur revient à se renforcer dans son identité et dans sa force de là où on est, tu vois.
Prendre sa part de responsabilité.
Voilà, c'est ça. C'est le point de vue d'une sorte de responsabilité. Et à partir de ce moment-là, complètement en raison, on a le droit, par moi, on a même le devoir d'adresser des questions. Tu vois, d'adresser des questions. Mais je crois qu'il faut... Voilà. Michel, tu voulais dire quelque chose.
Ça n'a pas de rapport avec ça. Tu as dit quelque chose, si je ne me trompe pas. En Jésus, il n'y a rien qui ne soit réconcilié. La plénitude du monde assumée par Jésus. La plénitude du monde. Je lis après ta dernière phrase. L'être là pour les autres, pour Jésus, est l'expérience de la transcendance. Est-ce que transcendance et plénitude du monde ne sont pas presque synonymes? Auquel cas, si mon épouse était vrai, le christianisme s'achève par la sortie de la religion, ok, pas de regret, mais réintègre Dieu complètement dans la plénitude du monde et dans la transcendance.
Oui, alors, l'affaire de... Oui, alors, tu sais, avec le chemin qu'on a fait cette année, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a des moments, par exemple le moment Lévinas, qui nous a occupé beaucoup, où il y a une espèce de la transcendance, c'est certainement pas la plénitude du monde. C'est au contraire le manque, il faudrait dire la displénitude, je ne sais pas comment on peut dire, le franchissement, la faille, voilà. Et quelque chose de l'altérité qui est, que Lévinas pose avec une très grande force. Par ailleurs, quand on lit Bonhoeffer, mais pas d'autres aussi, Tisch, par exemple, il y a au contraire une espèce, ou Spinoza, il y a au contraire une espèce de réinvestissement d'une transcendance dans, à partir de, chez Hans Jonas, par exemple aussi, qui est un très grand penseur du XXe siècle, il y a ce que Hans Jonas appelle l'autotranscendance, c'est-à-dire une sorte de dépassement du monde par lui-même. Tu vois. Est-ce que le principe de ce que nous avons les uns et les autres, certains d'entre nous, avons envie de continuer d'appeler transcendance, d'autres choisissent d'autres stratégies de langage, hein. D'autres n'aiment pas forcément ce terme, mais moi je ne m'en défais pas. Est-ce que c'est à penser à partir d'une pensée radicale de l'altérité par rapport au monde, à l'être là, alors c'est une partie de l'évangile de Jean, hein, c'est-à-dire je ne suis pas de ce monde, le monde a refusé, le monde est toujours pensé, hein, dans Jean, je ne dis pas de bêtises, il y a une forte dimension du monde comme principe de ce qui est le refus de la transcendance. Ou bien, est-ce que c'est du côté de là où on a plutôt penché aujourd'hui, du côté Bonhoeffer, qui consiste à dire, c'est la plénitude du monde comme il est qu'il faut aller, sa nudité, si tu veux, son nu, c'est-à-dire, c'est terrible le nu, parce que le nu, c'est à la fois la plénitude et en même temps l'exposition extrême, la vulnérabilité absolue, et tu vois, et l'ouverture et le devant, hein, tu vois, c'est comme Derrida encore parlant de sa nudité devant son chat. Tu vois, disant, je ne savais plus quoi faire quand le chat me regardait comme ça et que j'étais nu et que il dit ça me, on était quelques-uns à l'avoir entendu dire ça, voilà. Donc, moi personnellement, je ne te cache pas que cette position-là, pour moi, est pas tranchée. C'est-à-dire que il y a des moments où la plénitude et l'entièreté du monde. Me paraît la voie, c'est le moment spinoziste, on pourrait dire, tu vois. C'est le Deus sive natura, c'est-à-dire la nature. Mais dans nature, il y a naître, c'est-à-dire il y a dépassement, c'est-à-dire il y a l'excès, il y a le processus, il y a le conatus, et donc il y a aussi quelque chose qui est une fracture, quelque chose qui ouvre et qui dépasse. Donc moi, entre les deux, j'y suis. Je ne cesse de faire l'aller-retour.
Non, il n'y a pas juste la condition, ça je te suis tout à fait. Mais si on ajoute réconciliation, donc un mouvement, ça se chevauche pas. Si on ajoute, tu as dit en Jésus, il n'y a rien qui ne soit réconcilié, c'est-à-dire cette réconciliation maintenant à la fin des temps, tout ce que tu veux, ça sera et plénitude et transcendance. Enfin, bon, peut-être.
On verra. Oui. Chira,
sur le retrait de la religion, c'est-à-dire caducité,
plus fort.
Chute de la religion, destitution religieuse, au début de ta conférence, tu as parlé de communauté politique et politico-théologique. Alors, le rapport entre ceci, la perte du religieux et de la communauté, du lien, avec en même temps ce qui était suggéré dans ce que tu as dit, le surgissement de l'individu, l'impossibilité de penser le lien communautaire, de l'un avec l'autre justement, et qui devrait repartir du zéro de la communauté pour être là pour les autres, me voilà, en quelque sorte c'est aussi la parole de lui, de là, qui est
Je ne pense pas avoir employé le mot de communauté personnellement hein, dans l'exposé, mais non pas que je pense qu'il est fort clos ou qu'on doit le bannir, mais c'est. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire simplement, c'est que simplement, je suis assez profondément convaincu ce que j'ai essayé de dire au début très rapidement, comme une espèce d'introduction. Que le mot religieux, bon, religion, est un mot qui participe du théologico-politique, c'est-à-dire qui participe de l'opération de réunir en divisant. Ça, j'en suis assez profondément convaincu. Le mot, je parle du mot, et la réalité historique qui, à partir du moment où elle est posée sous ce mot. C'est pour ça que je l'ai indiqué en note, je suis extrêmement réservé à l'égard, par exemple, des analyses qui tentent de réfléchir sur la religion. En général, je trouve toujours ça extrêmement discutable. Parce que je ne sais pas exactement de quoi on parle lorsqu'on met sous le concept de la religion, d'abord toutes les religions que nous avons autour de nous, et plus d'autres pratiques qui sont, tu vois, c'est une manière de les unifier, à mes yeux, sous une catégorie qui est une catégorie issue de notre propre expérience extrêmement déterminée. Alors c'est pour dire que, par rapport à ta question, c'est pour dire que il me semble, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ce que tu induisais à travers ça, mais il me semble que lorsqu'il s'agit de religion, on est tenu de penser ce qui se passe dans la division, au moins autant que dans le rapprochement. Et c'est pour ça que l'inquiétude de Bonhoeffer à l'égard... Il ne faut pas oublier qu'on en a parlé beaucoup le mois dernier, mais Bonhoeffer, au moment où il écrit cela, c'est le moment de la division ultra-violente, non seulement au sein de tout ce qu'on a dit, mais au sein même de l'Église luthérienne. Une division qui est une division politique, mais vitale. C'est-à-dire que l'Église luthérienne se scindant en deux partis, mais pas partie ES, partie IS, deux partis, l'un ouvertement pro-nazi, hein, qu'on appelait les chrétiens allemands, soit par adhésion pleine, soit par accommodement, et un autre, complexe et ambigu d'ailleurs aussi, qu'on a appelé l'Église confessante. Et ces deux partis entrent dans un choc extrême. Et il voit, lui, quelque chose qui est, me semble-t-il, à ce moment-là, une véritable revendication religieuse. Tu vois, c'est-à-dire une appartenance religieuse. Et ça n'est pas pour rien dans le mouvement d'écartement qu'il marque à l'égard de cela. Donc, pour le dire autrement, le rapprochement, le venir à être ensemble, le venir à être en commun, auquel nous avons tous beaucoup pensé, et conformé par le religieux dans n'être pas de l'autre, de la religion d'à côté. Tu vois, n'être pas de la religion d'à côté. C'est-à-dire non seulement être là, mais n'être pas là. Toujours systématiquement dans cette espèce de regard antagoniste. Ça me semble, en tout cas, ça participer de l'économie du religieux comme tel. Il me semble que c'est de cela qu'il cherche à s'éloigner. Mais c'est l'heure.
C'est l'heure.
Bon, merci à vous. Merci pour cette. Merci à l'oratoire pour cette magnifique invitation et cette proposition de mener ce chemin si, si exigeant toute l'année. Et merci à vous de l'avoir accompagné. On y réfléchit.
On ne va pas forcément imposer à Denis le travail de titan qu'il a accompli cette année, donc on va travailler avec lui, voir si on peut laisser faire ça, un petit travail d'équipe, un petit peu dans poursuivre ce travail, mais en soulageant, en exploitant pas trop quand même non plus le pauvre peuple. Merci beaucoup.